Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que le faiseur de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 28 janvier 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'émir du Qatar invite le président iranien à participer au sommet des pays exportateurs de gaz. Qualification de l'Iran pour la Coupe mondiale 2022. Le président Raisi félicite l'équipe nationale iranienne de football. Ansarallah vise un rassemblement de la coalition d'agression à Marib faisant des dizaines de morts. Dimitri Medvedev, chef du parti au pouvoir Russie Unie et ex-président du pays, met en garde contre une guerre Russie-OTAN. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le vice-premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères lors d'une rencontre ce jeudi à Téhéran avec le président de la République islamique d'Iran a présenté l'invitation officielle de l'émir du Qatar à Sayed Ibrahim Raisi pour participer au sommet des pays exportateurs de pétrole. Renforcer les liens et la coopération synergique entre les pays voisins peut assurer la sécurité, a déclaré Ibrahim Raisi toujours lors de sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, Mohamed bin Abdel Rahman Al Thani, soulignant l'importance des mécanismes multilatéraux pour assurer la sécurité, notamment dans le domaine de l'énergie. Il a déclaré qu'il est nécessaire de maintenir et de renforcer la coopération et la synergie dans les politiques énergétiques des pays producteurs. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le président iranien Ibrahim Raisi a adressé ce jeudi soir un message de félicitations à l'équipe nationale de football et au peuple iranien suite à la qualification de l'équipe nationale iranienne de football pour la Coupe mondiale 2022 qui se tiendra au Qatar. Dans son message, Ibrahim Raisi a précisé les victoires successives et décisives de notre équipe nationale de football lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et des qualifications pour le Qatar 2022 ont apporté une vague de joie et de bonheur à la fière nation iranienne. Félicitant le guide suprême de la révolution islamique et le peuple les élèves d'Iran, ce grand succès qui est la manifestation du dynamisme et de la gloire d'une nation, je remercie sincèrement les efforts précieux de toutes les parties prenantes, entraîneurs et surtout les joueurs capables et zélés du football iranien. Je leur souhaite santé, fierté, victoire, continue dans les prochaines étapes, a souligné Ebrahim Raisi, président iranien. Le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé une frappe avec un missile balistique sur une région militaire de la coalition d'agression saoudienne au gouvernorat de Ma'arib. La force de missiles a pu cibler un grand rassemblement de mercenaires de l'agression saoudo-américaine dans la troisième région militaire du gouvernorat de Ma'arib avec un missile balistique. La frappe était précise et a fait des dizaines de morts et de blessés, a tué le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Le prédécesseur de Poutine met en garde contre une guerre Russie-OTAN, commentant l'idée d'un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN. Dmitri Medvedev, chef du parti au pouvoir Russie Unie et ex-président du pays, a mis en garde contre un scénario des plus dramatiques, même catastrophiques. Bien que certains fous, certaines têtes brûlées dans les pays de l'OTAN et aux États-Unis en parlent, je m'attends à ce que cela n'arrive jamais, a-t-il déclaré dans une interview accordée aux médias russes. Et lors d'un échange téléphonique avec son homologue américain Anthony Blinken au sujet de l'Ukraine, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a fait valoir que la sécurité régionale ne saurait être garantie par le renforcement ou l'expansion de blocs militaires. Nous appelons toutes les parties au calme, à s'abstenir d'accroître les tensions et de monter la crise en épingle, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères selon un communiqué diffusé par son ministère. L'armée malienne annonce avoir tué 37 terroristes. L'armée malienne a annoncé dans un communiqué avoir tué 37 terroristes lors de diverses opérations menées du 17 au 22 janvier. Ainsi, une opération d'envergure conduite dans les forêts de Naou-Lenar, située dans la région de Nara, au nord-ouest du pays, a coûté la vie à 28 éléments des groupes armés terroristes. Cette offensive a aussi permis à l'armée de remettre aux populations locales la pompe de Dia la Coro, pouvant leur permettre d'irriguer près de 21 000 hectares. Et dans les régions de Ségou et de Mopti, l'armée a mené plusieurs opérations ayant permis de tuer des terroristes, des engins à deux et quatre roues, des téléphones portables, des armes, des mines artisanales et des panneaux solaires ont été aussi saisis lors des opérations de l'armée malienne. La Côte d'Ivoire prévoit une production record de plus d'un million de noix de cajou en 2022. La Côte d'Ivoire prévoit une récolte de plus d'un million de noix de cajou au cours de la campagne de commercialisation pour l'année 2022 qui s'ouvre dès février. Pour la campagne 2022, une production de 1 040 000 tonnes de noix brutes de cajou, est projetée, soit quasiment le quart de la production mondiale, a annoncé le porte-parole du gouvernement présentant une communication relative au bilan de la campagne écoulée et aux perspectives 2022 de la filière anacarde. Au terme de la campagne 2021, un total de 968 676 tonnes de noix de cajou ont été enregistrées dans le circuit de commercialisation, soit une hausse de plus de 14% par rapport à la production totale commercialisée en 2020 qui était de 847 700 tonnes. La Côte d'Ivoire d'Ivoire est devenu le premier pays transformateur de noix de cajou en Afrique et le troisième mondial en 2021 avec 136 854 tonnes, tout en maintenant sa place de leader mondial au niveau de la production et de l'exportation de la noix de cajou avec 747 000 tonnes exportées. Ce niveau de production est en lien avec des conditions climatiques favorables et de bonnes pratiques agricoles, a expliqué le porte-parole du gouvernement. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'émir du Qatar a invité le président Raïsi à participer au sommet des pays exportateurs de gaz, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, lors d'une rencontre ce jeudi à Téhéran avec le président de la République islamique, Ibrahim Raïsi, a présenté l'invitation officielle de l'émir du Qatar au président iranien pour participer au sommet des pays exportateurs de gaz. Renforcer les liens et la coopération synergique entre les pays voisins peut assurer la sécurité, a assuré Ibrahim Raïsi toujours lors de sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, soulignant l'importance des mécanismes multilatéraux pour assurer la sécurité, notamment dans le domaine de l'énergie. Il a déclaré qu'il est nécessaire de maintenir et de renforcer la coopération et la synergie dans les politiques énergétiques des pays producteurs. Le président Raïsi a rappelé à cette occasion que la priorité de la politique étrangère de la République islamique d'Iran sous son gouvernement reste le développement et l'approfondissement des relations et de la coopération avec la région et les pays voisins, avant de souligner Téhéran considère et salue la coopération régionale en faveur de la paix, de la sécurité et du développement des nations. Faisant référence au potentiel de coopération Téhéran-Doha dans divers secteurs politiques, économiques et culturels, M. Raïsi a déclaré « Nous sommes disposés à activer tous les domaines pour le développement de la coopération bilatérale et régionale au profit des deux nations. » S'attardant sur le fait que la présence interventionniste des forces étrangères en Asie de l'Ouest sont source d'insécurité et des préoccupations, il a poursuivi. Les étrangers ne respectent pas l'identité et la souveraineté des nations et des gouvernements de la région. Ils se prennent pour les maîtres du monde. Ce alors qu'il revient à eux d'abandonner l'esprit d'arrogance et de reconnaître l'identité et la culture des nations. Le président iranien a ajouté, la nation iranienne reste toujours campée sur ses positions de principe et avance pour ses idéaux avec vigueur, quelle que soit la force des velléités des ennemis, de sorte qu'on assiste aujourd'hui à l'échec de la politique de pression maximale reconnue officiellement par les Américains eux-mêmes. Pour sa part, le ministre qatari des Affaires étrangères a noté, le Qatar est également d'accord avec l'Iran sur le fait que la présence de forces étrangères dans la région a des effets néfastes. Nous pensons que les pays de la région doivent emprunter la voie de la paix et du progrès en s'appuyant sur la coopération régionale, a-t-il souligné.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. L'Iran, la Russie et la Chine ont débuté vendredi 21 janvier des exercices navals conjoints dans l'océan Indien visant notamment à renforcer la sécurité commune. Ces manœuvres interviennent alors que le président iranien Ebrahim Raisi vient d'effectuer une visite officielle de 2 jours en Russie pour renforcer les liens entre les deux pays. Il a notamment annoncé qu'un accord de coopération sur 20 ans sera prochainement signé entre les deux pays. Il y a quelques jours, l'Iran et la Chine ont également annoncé l'entrée en application d'un accord de partenariat stratégique de 25 ans entre les deux pays. Ainsi, les trois pays renforcent leurs relations et ces manœuvres qui vont durer 3 jours, en effet, marquent ce rapprochement des bâtiments de l'armée et du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que des navires russes et chinois participent à ces manœuvres les plus importantes organisées entre les deux pays. Il s'agit en effet des troisièmes manœuvres du genre réunissant les navires de guerre et des aéronefs des marines des trois pays. Les premières manœuvres de ceinture de sécurité maritime ont eu lieu en décembre 2019. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de ces manœuvres, la création de cette nouvelle alliance navale et, bien entendu, les répercussions géostratégiques de ces exercices navals hybrides sur le plan régional et international. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'exercice naval hybride trilatéral baptisé « Ceinture de sécurité maritime 2022 » a débuté vendredi dans le nord de l'océan Indien avec la participation d'unités militaires iraniennes, chinoises et russes. Au cours de cet exercice, des navires de guerre iraniens, russes et chinois ont tiré avec succès sur des cibles navales. Les unités navales iraniennes, chinoises et russes qui s'étaient déplacées vers le site de la mission dans le nord de l'océan Indien ont mené à bien leur mission, a déclaré le contre-amiral Mostafa Tajeddin, porte-parole iranien de l'exercice naval hybride. À ce stade de l'exercice militaire, les unités navales participantes sino-russo-iraniennes, sous le commandement du destroyer iranien Jamaran, ont tiré sur des cibles de surface prédéterminées en mer à l'aide d'armes de calibre 20 mm, a-t-il ajouté. À l'étape suivante de l'exercice Photo-X, la disposition offensive des unités participantes à l'exercice a été réalisée en fonction des menaces dans la région, a poursuivi le contre-amiral, soulignant que la présence de la République islamique d'Iran dans les eaux internationales indique une position et un statut élevé du pays sur la scène internationale. Tajeddini a déclaré que le rétablissement de la sécurité régionale et internationale est très important pour l'Iran et que pour cette raison même, la marine du pays ne permettra jamais la concrétisation d'une quelconque menace dans le secteur maritime. L'Iran, la Chine et la Russie sont-ils sur le point de créer une alliance navale propre à contrer les tentatives US-OTAN-Israël à insécuriser les voies navigables de la région? Après tout le gros de la piraterie de mer ou d'attaques anti-navires marchands sont commis dans le golfe d'Aden, entre le golfe Persique, l'océan Indien et la mer Rouge. Et on sait que ces attaques préméditées font partie d'une stratégie US-Israël qui vise à imposer une forme de sanction navale de facto à la fois l'Iran et la résistance, à la Chine mais aussi à la Russie. En effet, aussi bien la Chine que la Russie sont en pleine friction navale avec le clan US à la fois en mer de Chine, en Méditerranée orientale, en mer Noire. A rappeler que l'Iran vient de finaliser un pacte stratégique de 25 ans avec la Chine Le président Raisi vient d'effectuer une visite officielle de 2 jours en Russie pour sceller les liens stratégiques.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Paris avec Philippe Hugon, journaliste de guerre et reporter de guerre et journaliste, et depuis Moscou avec Fabrice Boire, expert pour l'ONG ODE. Monsieur Boire, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être dans votre émission.
Comme vous le savez, les manœuvres baptisées à ceinture de sécurité maritime 2022 ont débuté vendredi dans le nord de l'océan Indien. Des unités maritimes et aériennes des marines des 3 pays, à savoir l'Iran, la Russie et la Chine, participent à ces exercices navals hybrides. Une première question pour commencer, M. Boire, quelle est l'importance stratégique de ces manœuvres navales?
Bon, déjà, il faut rappeler que ce ne sont pas les premières. Mm-hmm. Il y a déjà eu, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans déjà, il y a eu des manœuvres conjointes entre ces 3 flottes, à savoir chinoise, russe et iranienne. Mais aujourd'hui, évidemment, ça prend un autre tournant, puisque le développement de l'actualité, le développement du mouvement tectonique des plaques géopolitiques fait que ça prend une autre tournure, en particulier avec le bruit que nous avons, ou je dis bien du bruit entre guillemets, que nous avons autour de la question ukrainienne. Et donc, aujourd'hui, cela marque qu'en fait, il y a plusieurs éléments, puisque vous avez la Russie qui a décidé depuis un certain nombre d'années de revenir sur la scène internationale, non point pour retrouver la puissance de l'URSS, mais pour se repositionner en tant que puissance internationale afin de mieux faire, de mieux défendre ses intérêts, a développé un programme pour reconstruire une flotte. Une flotte qui doit pouvoir être sur tous les océans du monde. En cela, on peut comprendre les accords que la Russie a fait, par exemple, avec le Malabo, en Guinée équatoriale, en Afrique, et Syrie et d'autres pays, et en particulier l'accord aujourd'hui qu'elle fait, votre pays, l'Iran, et avec la Chine, puisque nous sommes bien aujourd'hui, c'est très symbolique d'ailleurs, de nouveaux 2 blocs. Nous avons bien le bloc occidental d'un côté et un nouveau bloc de l'Est qu'on peut aussi qualifier de bloc eurasien, avec comme pays principal évidemment la Chine, la Russie et l'Iran. L'Iran aujourd'hui qui fait partie intégrante de ce bloc eurasien, et on le voit bien avec les accords que vous avez précisés, les accords que la marine, pas que la marine d'ailleurs, que l'Iran a fait avec la Chine et que l'Iran fait également avec la Russie et que la Russie fait également de manière plus pragmatique entre la Russie et la Chine. Nous voyons bien qu'il y a aujourd'hui des intérêts convergents, et ces intérêts convergents, ce sont la stabilisation dans les régions, en particulier principalement justement sur cette zone commerciale très importante pour la Chine, mais également justement la voie d'échange commercial de l'Iran et la Russie, c'est pour appuyer son retour au Proche-Orient. Donc nous avons, pour terminer dessus, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire, nous avons aujourd'hui, dans ces manœuvres, une symbolique qui n'est que répétée du renforcement du bloc eurasien face au bloc occidentale qui continue sa politique de déstabilisation. Et pourquoi elle continue sa politique de déstabilisation? Puisque principalement, ce sont l'impérialisme américain. Ils savent très bien aujourd'hui qu'ils sont dans une position de roi qui peut être déchu et qui est très contestée, et que pour ce faire, il a besoin de se reconcentrer. C'est pourquoi, vous voyez, les États-Unis sont partis d'Afghanistan, pas parce qu'ils avaient perdu, parce qu'ils se reconcentrent ailleurs. Et face à cela, nous avons donc aujourd'hui ce renouveau, on va dire, un peu agressif. On voit l'OTAN en Europe et on voit également en Asie du Nord-Est avec la politique américaine contre la Chine, et bien évidemment avec le Proche-Orient qui, en fait, est très important, non seulement évidemment pour votre pays, c'est une évidence, mais si le Proche-Orient retombe évidemment dans le chaos, c'est toute l'Asie centrale qui peut effectivement revenir dans le chaos, et ça met en péril ce bloc eurasiatique avec ses nouvelles routes de la soie. Nous avons beaucoup d'éléments énergétiques, commerciaux, géostratégiques et de reconfiguration du monde, ce monde multipolaire, et c'est cela qui est en train de se jouer, et ces manœuvres font partie de ces instruments qui sont mis en œuvre pour, d'un point de vue intérieur, renforcer ces accords, renforcer ce bloc eurasien, et démontrer évidemment qu'on ne restera pas lettre morte face aux agissements du bloc occidental dont Israël fait partie pour le Proche-Orient.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Beurre. On va tout de suite rejoindre à Paris Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste. Monsieur Hugon, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci à vous et bonjour à votre invité.
Monsieur Beurre a rappelé les intérêts convergents, en effet, de la Chine, de la Russie et de l'Iran, ces trois membres, principaux membres du bloc eurasien. L'importance, en effet, des manœuvres conjointes qui sont en cours actuellement dans le nord de l'océan Indien pour le commerce maritime, pour lutter, en effet, contre les agissements hostiles et déstabilisateurs du bloc occidental. Et justement, ces manœuvres interviennent au lendemain de la visite du président Raïsi en Russie et presque une semaine après l'entrée en application de l'accord de partenariat stratégique de 25 ans entre l'Iran et la Chine. D'abord, que pensez-vous du timing de ces manœuvres qui marquent, comme l'a précisé M. Beurre, un nouveau tournant dans les relations entre les trois pays? Et deuxièmement, de quelle mesure ces manœuvres pourraient contrer ces agissements, cette politique, ces manœuvres de déstabilisation des pays occidentaux à leur tête des États-Unis, notamment en ce qui concerne justement alors cette tentative d'insécuriser les voies navigables de la région?
Oui, alors avant de parler de ce tournant, je pense qu'il faut rappeler que depuis l'effondrement du bloc de l'Est, les Américains et plus globalement les Occidentaux avaient un peu pris l'habitude de faire ce qu'ils désiraient, puisque la Russie était devenue inexistante, la Chine était inexistante. Donc il y avait une sorte d'hégémonie en politique étrangère de la part des États-Unis, avec le soutien bien sûr du monde occidental. Alors ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que la Russie a retrouvé une position beaucoup plus forte, beaucoup plus stable. Quant à la Chine, elle est devenue la première puissance économique mondiale. Sachant par exemple que toutes les banques occidentales sont en faillite financière, que notre industrie est totalement moribonde aujourd'hui, qu'on a un taux de chômage qui explose de partout, que ce soit aux États-Unis ou dans toute l'Europe. Donc nous ne sommes plus en position de force pour imposer quoi que ce soit. Donc je trouve qu'il est assez normal aujourd'hui qu'il y ait des accords passés entre la Russie, la Chine, l'Iran, la Syrie, ce qui est pour l'équilibre du monde, pour l'équilibre de la paix, vraiment un point vraiment très très positif. Donc je dirais qu'aujourd'hui on assiste à un nouveau découpage des forces en présence, puisqu'il y a maintenant à nouveau un groupe, je dirais, comme le disait votre invité, un groupe qui est plus centré sur l'Asie, qui devient je dirais, la première puissance financière et militaire de la planète. Ce que, bien sûr, l'Union européenne et les États-Unis ont énormément de mal à tolérer et à accepter cette nouvelle donnée du problème, cette nouvelle équation. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, je trouve tout à fait normal de voir des puissances comme la Russie, la Chine et l'Iran intervenir dans des manœuvres militaires. Qu'est-ce que font l'Union européenne et les États-Unis conjointement? Ils organisent régulièrement des exercices militaires et personne ne trouve rien à redire à ces exercices. Donc je trouve un petit peu déplacé de la part du monde occidental de vouloir de critiquer et de condamner des manœuvres militaires que je trouve tout à fait normales. Je pense que la période colonialiste est passée, la période de domination du monde par un seul pays, c'est une époque révolue, et je pense pense que c'est une nouvelle donne et il faut que les États-Unis acceptent maintenant, et l'Union européenne également, accepte cette nouvelle donnée des problèmes. On n'est plus dans les années 80 ou 90 où il y avait cette hégémonie du monde occidental et qui imposait un grand nombre de décisions au niveau politique international. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et je trouve tout à fait normal que ces pays passent des accords à la fois économiques mais militaires afin de faire face à l'Union européenne et aux États-Unis qui veulent continuer d'imposer cette politique. Je pense qu'on a pris dans le monde occidental de très mauvaises habitudes et qu'il faut maintenant composer avec cette nouvelle équation, avec cette nouvelle donne et trouver des solutions de partenariat. Donc je trouve tout à fait normal ces alliances, qu'elles soient militaires, économiques, financières, entre ces pays afin de retrouver une certaine stabilité.
Merci pour ces précisions, Monsieur Hugon, restez avec nous. Monsieur Bohr, donc face à cette nouvelle donne, à cette nouvelle équation, alors à quoi il faudrait s'attendre de la part des pays occidentaux? En d'autres termes, quelles seront les répercussions géostratégiques de ce nouveau rapprochement, de ce tournant, comme vous disiez tout à l'heure, sur le plan régional et international, d'autant plus que, bien sûr, les agissements hostiles et déstabilisateurs du bloc occidental vont se poursuivre.
D'un point de vue géostratégique, notez que la puissance américaine, c'est sa facilité de projection de par le monde, et elle le peut grâce essentiellement à sa marine. La marine américaine, la flotte américaine, la flotte militaire américaine est la première du monde, c'est un fait. Mais aujourd'hui, elle est contestée par la marine chinoise et elle est contestée, et de plus en plus, par la marine iranienne dans votre région et même au-delà, et par la marine russe, la flotte russe qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène également. Il n'est pas question, la Chine c'est une autre histoire, mais il n'est pas question pour la Russie de faire une course aux armements. Il s'agit simplement d'avoir les moyens d'être présent dans tous les points où elle pense que la chose est nécessaire. Et lorsque vous combinez ces forces, de la Russie, de la Chine et de l'Iran, je parle évidemment ici de la question que nous débattons, à savoir des flottes militaires. Nous avons effectivement aujourd'hui, non pas simplement dans les déclarations, mais dans les faits, dans les moyens, la puissance de remettre en cause cette hégémonie, puisque c'est en contrôlant les flux commerciaux, les lignes commerciales que les États-Unis veulent évidemment continuer à contrôler le monde. Ce pourquoi les nouvelles routes de la soie qui passent par les voies terrestres leur posent problème, et que la voie maritime du Nord leur pose également problème, puisqu'elle est sous total contrôle de la Russie. Et donc nous avons aujourd'hui effectivement aussi cette contestation dans l'océan Indien, puisqu'il y a effectivement aussi une contestation essentiellement dans l'océan Pacifique face à la Chine, mais en mer de Chine, mais dans l'océan Indien, puisque je rappellerai que la marine iranienne aujourd'hui va jusqu'à Madagascar. Ils ont des accords, la marine iranienne a des accords avec Madagascar. Ce n'est pas un hasard que juste après, il y a eu une tentative d'assassinat, d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, nous voyons bien aujourd'hui une forme de répartition des rôles, et que nous voyons la Chine, qui pendant très longtemps, effectivement, n'avait pas eu tellement de géopolitique, depuis un certain temps, aujourd'hui, est passée à une autre phase où elle se réaffirme, et on la voit, et c'est très bien ainsi. Ce qui, un peu, on va dire, d'une manière, dans le même tempo que la Russie aujourd'hui, avec 2014, avec le coup d'État de Maïdan, où c'était là le but, d'ailleurs, des Américains, c'était de prendre le port de Sévastopol pour, justement, anéantir la marine russe. C'était ça, le véritable objectif. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que les puissances continentales regroupées au sein de ce bloc eurasien, avec les trois pôles, donc Téhéran, Moscou et Beijing, on voit bien aujourd'hui qu'elles vont également sur le terrain américain, à savoir la mer, contester justement ces outils, la flotte de cette puissance thalassocratique. C'est comme ça que Rome a vaincu Carthage, faut-il le rappeler. Je pense qu'il y a un peu de un clin d'œil à l'histoire. Ce clin d'œil aujourd'hui, il se base sur des faits. Et en cela, on voit effectivement que lorsque on appuie ou il faut appuyer, comme actuellement la Russie, qui pose un ultimatum à l'OTAN par rapport à la situation ukrainienne, et on voit toute un peu, on va dire, des fois même la folie de certains médias de l'OTAN où on crie à UADIA sur la guerre qui arrive. En fait, on voit bien que ils ont peur parce que en fait, en face d'eux aujourd'hui, ils ont du répondant. En face d'eux, ils ont des puissances qui ensemble posent des exigences, et ces exigences ne sont pas des exigences territoriales, ces exigences sont des exigences de stabilité, sont des exigences de revenir en fait au monde tant indiqué par le monde occidental, c'est-à-dire le droit international, puisque le droit international est violé constamment par les États-Unis et par l'Europe avec les arrestations de diplomates par exemple. Et donc nous avons aujourd'hui ce pôle eurasien qui montre sa force, non pas pour l'utiliser, mais pour faire venir à la table des négociations afin de créer véritablement ce monde multipolaire. Maintenant, il faut toujours passer par cette phase. À titre personnel, je ne crois pas que les États-Unis veulent ces négociations pour la simple et bonne raison qu'ils savent très bien que le système, que le rêve américain, comme ils disent, qui n'existe plus tellement aux États-Unis d'ailleurs, se base simplement sur le parasitisme du monde. C'est le monde qui doit payer le déficit des États-Unis. Et donc nous avons aujourd'hui nous sommes dans une phase où ce bloc eurasien, je termine dessus, ce bloc eurasien se renforce d'un point de vue solidaire afin de faire capoter cette volonté de guerre qu'a les États-Unis, puisque rappelons, et c'est vraiment mon mot de la fin, les États-Unis ont toujours vécu en guerre et les guerres ont toujours été profitables jusqu'à présent aux États-Unis. Eux n'ont pas peur de la guerre, bien évidemment, puisqu'elle est généralement faite chez les autres pays. C'est pour ça que les Européens n'ont aucun intérêt à suivre cette politique. Et leur seul intérêt, c'est de saisir la main de ce bloc eurasiatique afin de construire un nouveau monde, un véritable monde eurasien, sans les États-Unis, qui sont jusqu'à présent qu'une politique parasitaire et qui n'amène que la guerre.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Hugon. M. Hugon, donc aujourd'hui, le bloc eurasien se renforce, et justement ces exercices maritimes, une démonstration de force, et montre également que ces trois pays, l'Iran, la Chine et la Russie, en effet, sont aptes à former, ont peut-être déjà formé une alliance navale. Et la question qui se pose, M. Hugon, dans quelle mesure justement cette alliance navale pourrait non seulement contester, mais contrer les agissements hostiles et déstabilisateurs de l'axe États-Unis, Israël et OTAN?
Oui, ben il est clair qu'aujourd'hui, les États-Unis ont de gros problèmes logistiques, dus principalement d'ailleurs à leur situation financière. Donc c'est vrai qu'ils essayent par tous les moyens d'entraîner l'Europe dans leur folie diplomatique et leur folie de guerre. Et ça, je dois dire que les États-Unis aujourd'hui sont dans une telle situation, et comme le rappelait très bien votre invité, ils n'existent que par la guerre. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on arrive à une situation extrêmement tendue où, justement, cette alliance entre la Chine, la Russie, l'Iran essaye d'apporter une stabilité en Orient, en Asie, et la stabilité, quelque part, est un peu contestée par le monde occidental qui voit en cette stabilité les problèmes que vont apporter cette stabilité. Car aujourd'hui, le monde occidental n'a plus les moyens de pouvoir se développer sur des bases saines. Et comme le disait votre invité, et il a tout à fait raison, c'est la déstabilisation qui apporte leur continuité de système. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation délicate. Et je dois rappeler cet exemple qui m'avait vraiment surpris et qui était en 1979. Donc on avait eu bien sûr ce premier choc pétrolier, et les fabricants de voitures américaines continuaient de fabriquer de très gros moteurs V8, alors qu'en Europe, ont commencé à fabriquer de petits moteurs. Ça veut dire, je trouve que c'est bien révélateur de la société américaine. Ce sont des gens qui ne veulent pas changer leur mode de vie et qui ne veulent absolument pas s'adapter aux nouvelles donnes. Donc ils sont prêts quelque part à faire crever un certain nombre de pays de façon à ce qu'eux puissent continuer à vivre comme ils le souhaitent.
Merci.
Et comme ils le désirent. Donc ça pose un véritable problème aujourd'hui.
Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste depuis Paris. Fabrice Soir, expert pour l'ONG depuis Moscou. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
D'Alan, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire, et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, l'euro axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles, les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Le plan des États-Unis d'un Afghanistan à l'intérieur de l'Europe. Des soldats en tenue de guerre et des véhicules blindés de combat ont été déployés de la Suède sur Gotland, l'île, donc en mer Baltique, qui est à 90 km de ses côtes orientales. Le ministère de la Défense déclare l'avoir fait pour défendre l'île de menaçants navires de débarquement russes qui croisent en mer Baltique. Ainsi, même la Suède contribue en tant que partenaire à la frénétique campagne USA-OTAN qui, renversant la réalité, présente la Russie comme une puissance agressive qui se prépare à envahir l'Europe. À 130 km à l'est de Gotland, la Lettonie est en état d'alerte avec la Lituanie et l'Estonie contre l'ennemi inventé qui serait sur le point de l'envahir. Comme « défense contre la menace russe », entre guillemets, l'OTAN a déployé dans les trois républiques baltes et en Pologne quatre bataillons multinationaux. À celui en Lettonie participe l'Italie avec des centaines de soldats et véhicules blindés. L'Italie est en outre l'unique pays qui a participé à toutes les missions de police aérienne de l'OTAN, depuis des bases en Lituanie et Estonie, et le premier à utiliser des chasseurs F-35 pour intercepter des avions russes en vol dans le couloir aérien international sur la Baltique. Les trois républiques baltes ne se sentent pourtant pas assez protégées par la présence avancée renforcée de l'OTAN. Le ministre letton de la Défense, Artis Pabriks, a demandé une présence militaire américaine permanente dans son pays, les forces USA. Expliquent les experts, comme dans un scénario de film hollywoodien, n'arriverait pas à temps d'Allemagne pour arrêter les forces blindées russes qui, après avoir renversé les trois républiques baltes, les couperaient de l'Union européenne et de l'OTAN en occupant le couloir de Suwalki entre la Pologne et la Lituanie. L'Ukraine, partenaire, mais de fait déjà membre de l'OTAN, a le rôle d'acteur principal dans le rôle de pays agressé. Le gouvernement dénonce, sur la base de sa parole d'honneur, avoir été frappé par une cyberattaque attribuée évidemment à la Russie, et l'OTAN se précipite avec l'Union européenne pour aider l'Ukraine et mener une guerre cybernétique. Washington dénonce. L'Ukraine est désormais entourée sur trois côtés par les forces russes et, en prévision du blocus des fournitures de gaz russes à l'Europe, les États-Unis se préparent généreusement à les remplacer avec des fournitures massives de gaz naturel liquéfié états-unien. L'attaque russe, comme l'informe la Maison-Blanche sur la base d'informations dont la véridicité est garantie par la CIA, serait préparée par une opération sous faux drapeau. Des agents russes, infiltrés en Ukraine orientale, accompliraient de sanglants attentats contre les habitants russes du Donbass, dont ils attribueraient la responsabilité à Kiev comme prétexte de l'invasion. La Maison-Blanche ne se souvient pas qu'en décembre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait dénoncé la présence en Ukraine orientale de mercenaires américains avec des armes chimiques. Les États-Unis, comme le rapporte le New York Times, ont communiqué aux alliés que toute victoire russe rapide en Ukraine serait suivie d'une insurrection sanglante, semblable à celle qui obligea l'Union soviétique à se retirer de l'Afghanistan et que la CIA, secrètement, et le Pentagone, ouvertement, la soutiendraient. Les États-Unis, rappellent James Stavridis, ancien commandant suprême allié en Europe, savent comment le faire. À la fin des années 70 et dans les années 80, ils armèrent et entraînèrent les Moudjahidines contre les troupes soviétiques en Afghanistan. Mais le niveau de soutien militaire américain à une insurrection ukrainienne ferait apparaître comme une broutille ce que nous avons donné en Afghanistan contre l'Union soviétique. Le dessein stratégique de Washington est évident. Faire précipiter la crise ukrainienne volontairement provoquée en 2014 pour obliger la Russie à intervenir militairement en défense des Russes du Donbass pour finir dans une situation analogue à celle afghane dans laquelle s'embourba l'URSS. Un Afghanistan à l'intérieur de l'Europe qui provoquerait un état de crise permanente, tout à l'avantage des Américains qui renforceraient leur influence et présence dans la région.
Thank you.